Vous écoutez, on lit pour vous.
Cecilia Payne Kapuskin, pilier de la révolution quantique en astrophysique. Un texte de Jean-René Roy, publié le 6 décembre 2025 dans Le Devoir. Une fois par mois, Le Devoir lance à des passionnés d'histoire le défi de décrypter un thème d'actualité à partir d'une comparaison avec un événement ou un personnage historique. L'UNESCO a déclaré en 2025 Année internationale de la science et de la technologie quantique. Il y a environ 30 ans, le monde de la physique et de la chimie fut témoin d'avancées qui éclairèrent d'une manière nouvelle l'univers atomique et subatomique. Les phénomènes microphysiques qu'on découvrait en succession se déroulaient selon des lois différentes de la physique classique. Celle mise en avant durant la seconde moitié du 19e siècle par les Kelvin, Helmholtz, Maxwell, Hertz, Becquerel, Thomson, Roentgen et bien d'autres. Pour un moment, on crut que la physique avait atteint son apogée. Sans le savoir, on avait mis la table pour Albert Einstein, Marie et Pierre Curie, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, et Werner Heisenberg, qui inventèrent une nouvelle physique tout en absorbant l'ancienne. Dans le monde atomique et subatomique, les objets se comportaient à la fois comme des projectiles et comme des ondes. Ils pouvaient contourner des obstacles et franchir les barrières d'une manière étrange. Naissait la physique quantique, dont nombre de technologies actuelles sont issues, et de laquelle a émergé une meilleure compréhension de l'univers. Au début du 20e siècle, on estimait que la composition chimique de la Terre était représentative de celle du Soleil et des étoiles. En 1925, une jeune astrophysicienne de 25 ans démontrait, en suscitant le plus grand scepticisme de la communauté astronomique, que l'hydrogène était l'élément dominant dans l'univers. 92% de toute la matière est faite d'atomes d'hydrogène. L'hélium arrive en second avec un peu plus de 6% des atomes, tandis que les 90 éléments restants représentent à peine 2% de l'univers. Cecilia Payne avait fondé son travail sur la toute nouvelle théorie quantique des processus lumineux, donnant lieu au spectre de lumière solaire et stellaire. Lumière messagère. La spectroscopie permet de disperser et d'analyser la lumière en fonction de la longueur d'onde, comme le font les gouttelettes d'eau qui produisent l'arc-en-ciel, qui est un spectre de la lumière solaire. La lumière dispersée renseigne sur la nature de la source lumineuse. Durant la décennie 1850, le physicien et chimiste allemand Gustav Robert Kirchhoff et Robert Wilhelm Eberhard Bunsen avaient rassemblé en laboratoire les données de spectre de plusieurs éléments à partir de leurs flammes. Ils résolurent l'intrigue des raies sombres apparaissant dans les spectres de la lumière solaire ou stellaire. Kirchhoff et Bunsen montrèrent qu'en superposant une flamme de sodium de laboratoire au spectre solaire, cette raie d'absorption se changeait en raie d'émission, et que chaque élément peut absorber la radiation qu'il émet. Kirchhoff et Bunsen identifièrent ainsi les éléments par l'étude de leur flamme. Mais pour comprendre les signatures spectrales, il fallait un modèle physique des atomes. La théorie de la structure atomique du physicien danois Niels Bohr, en 1913, électrons de charge négative autour d'un noyau positif, permis d'interpréter les spectres produits par les différents éléments. Le passage des électrons d'un niveau d'énergie à un autre est responsable des raies spectrales associées à un élément. La différence d'énergie entre deux niveaux électroniques détermine la longueur d'onde de chaque raie spectrale. Mais qu'est-ce qui déterminait l'intensité d'une raie spectrale produite par un élément donné? Était-ce uniquement son abondance? En 1920, l'astrophysicien indien Meghna Saha, 1893-1956, publiait la théorie quantique spécifique au spectre stellaire. La température détermine la répartition des électrons entre les couches électroniques de chaque atome. La température joue un rôle déterminant dans la force observée des raies spectrales. La jeune astrophysicienne anglo-américaine Cecilia Payne fut la chef d'orchestre du fructueux mariage entre physique quantique et analyse spectrale des étoiles. Elle appliqua la relation de Saha entre l'apparence des raies des spectres des étoiles et les conditions physiques de leur atmosphère pour arriver au résultat révolutionnaire de l'hyperabondance de l'hydrogène. Trajectoire professionnelle. Cecilia naquit à Wendover dans le Buckinghamshire en 1900. Edward Payne, son père, était historien et avocat au University College d'Oxford. La mort vint l'enlever à sa famille alors que Cecilia n'avait que 4 ans. Sa mère, Emma Pertz, peintre accompli, initia ses enfants à la littérature. Payne se rappela plus tard l'époque où, sur les genoux de sa mère, celle-ci lui disait l'Odyssée d'Homère. Cecilia fit ses études primaires à Wendover. À 12 ans, elle parlait le français et l'allemand avec une certaine facilité, en plus d'avoir acquis une connaissance du latin. Ses matières préférées étaient la botanique et l'algèbre. Lorsque la famille Payne s'établit à Londres, Cecilia y fréquenta une école où l'on négligeait les sciences. Pour remédier à cette carence, elle lut les volumes de la bibliothèque familiale, des œuvres de Newton, du philosophe suédois Emmanuel Swedenborg et du biologiste anglais Thomas Huxley, promoteur de la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Charles Darwin. De Swedenborg, elle garda la vue mystique de la science. Elle développa son esprit scientifique grâce aux ouvrages de Huxley. En 1919, Payne obtint une bourse pour étudier au Newnham College de l'Université de Cambridge. Elle s'inscrit en botanique, en chimie et en physique. Ayant assisté à une conférence de l'astrophysicien Arthur S. Eddington, portant sur la relativité générale et sur les résultats de l'expédition de l'éclipse solaire de 1919, visant à vérifier la déviation des rayons lumineux près du bord solaire, elle s'enthousiasme pour l'astronomie. Elle avait 19 ans. Vers la fin de ses études, elle constata que la seule profession qui lui était ouverte en tant que femme scientifique était l'enseignement, trop restreinte pour ses ambitions. À la même époque, l'astronome américain Arlo Shapley faisait une tournée de conférences en Grande-Bretagne. Cecilia le rencontra et il y eut affinité d'intérêt. Shapley l'invita à se joindre à l'équipe du Harvard College Observatory. Elle accepta. Alors qu'elle n'envisageait d'y rester qu'un an ou deux, elle y passa sa vie. Univers d'hydrogène. Shapley, directeur du Harvard College Observatory, proposa à Cecilia une thèse de doctorat qu'elle mena à terme et qu'elle présenta en 1925 au Radcliffe College, institution associée à l'Université Harvard. Dans son étude, Stellar Atmosphere et Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of Stars, menée à partir d'un grand nombre de spectres d'étoiles et l'application de la théorie de Saha, Payne détermina la composition chimique de centaines d'atmosphères stellaires. Elle démontra que les étoiles ont à peu près toutes la même composition chimique, les différences spectrales étant causées surtout par la diversité des températures stellaires. Elle y nota aussi un parallèle entre les abondances chimiques relatives dans les étoiles et celle de la Terre, à l'exclusion de l'hydrogène et de l'hélium. En raison des processus de formation du système solaire et de la faible masse de notre planète, les éléments légers, plus volatiles, furent perdus tôt dans son histoire. Relier la nouvelle physique quantique à l'analyse des spectres des étoiles fut un pas de géant. La thèse de Payne, où elle démontrait, à l'étonnement général, que l'hydrogène était l'élément le plus abondant dans les étoiles, s'avéra un tournant crucial dans l'évolution des idées en astrophysique. La réalisation de l'abondance dominante de l'hydrogène devint le pilier de tous les travaux qui fondent la génération d'énergie dans les étoiles par la fusion thermonucléaire, d'atomes légers en plus lourds, dans le cas du Soleil, et pour la majeure partie de la vie des étoiles, c'est la transformation de 4 atomes d'hydrogène en 1 atome d'hélium. Cependant, cette conclusion inattendue sur les compositions chimiques des étoiles fut reçue d'abord avec incrédulité. Chaplin lui-même, ainsi que Henry Norris Russell de l'Université de Princeton, une autorité en physique stellaire, accueillirent la conclusion de Payne avec le plus grand scepticisme. On supposait alors des abondances des éléments semblables à celles du globe terrestre. Mais le résultat surprenant obtenu par Payne se révéla correct. Les travaux de plusieurs autres astronomes confirmaient rapidement la conclusion de Payne. Par la suite, les avancées dans la compréhension des spectres stellaires firent un bond. En 1960, la thèse de Payne fut qualifiée par l'astronome russo-américain Otto Struve comme, citation, « la meilleure thèse de doctorat écrite en astronomie ». Fin de citation. Cecilia, l'avant-gardiste. Cecilia Payne se décrivait comme une personne cherchant à réconcilier des faits ou des résultats apparemment inconciliables. Elle affirmait que, citation, « l'observation devait ouvrir la voie à la théorie ». Fin de citation. Sur le plan social, elle jugeait que les femmes avaient accepté trop longtemps de petites places dans de petits rôles. Elle le répétait, « ce n'est pas parce qu'on est mère que l'on doit renoncer à toute carrière. Il est possible de concilier carrière, maternité et fonction domestique si l'on fait certaines concessions et si l'on a un horaire adéquat. » Les Payne Kapuskin eurent 3 enfants. Cecilia a dû néanmoins, comme toutes les femmes d'alors, faire face à la discrimination des grandes écoles. Elle dut attendre la retraite en 1933 d'Abbot Lawrence Lowell, président de l'Université Harvard, et de celle de Shapley à la direction du Harvard College Observatory en 1952, pour que les choses bougent. En 1954, l'astronome Donald Menzel devint directeur de l'établissement. En 1956, Payne fut la première femme nommée professeure à Harvard et bientôt la première femme à être directrice de département à Harvard. À la suite du travail de Cecilia Payne Kapuskin, on a pu déterminer de quoi sont faites les étoiles, comprendre les fines variations dans leur abondance chimique, calculer leur structure interne et décrire leur évolution. L'étude des processus de nucléosynthèse des éléments dans les étoiles et de la génération d'énergie au centre des étoiles connut une importante impulsion dans les années 1930 à 1950. Les chaînes de réactions thermonucléaires dans les étoiles furent établies, de même que les mécanismes donnant les abondances observées d'éléments. Aujourd'hui, Cecilia Payne Kapuskin représente le modèle d'une femme de grand talent, d'une scientifique accomplie et forte, d'une détermination indéfectible, travaillant dans un milieu où des barrières sociales étaient à abattre. C'était Cecilia Payne Kapuskin, pilier de la révolution quantique en astrophysique. Un texte de Jean-René Roy publié le 6 décembre 2025 dans Le Devoir.
Ottawa dépose son projet de loi faisant du contrôle coercitif une infraction criminelle. un texte de Stéphanie Marin, publié le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. Le contrôle coercitif sera une infraction criminelle au Canada si le plus récent projet de loi d'Ottawa, déposé mardi à la Chambre des communes, est adopté. Le projet de loi C-16, loi visant à protéger les victimes, propose une importante réforme de la justice criminelle sur plusieurs volets. Il prévoit par ailleurs que certains meurtres commis dans un contexte de violence conjugale ou de haine contre les femmes seront considérés comme des meurtres au premier degré, l'infraction la plus grave au code criminel. Ces réformes visent à lutter contre l'augmentation des situations de contrôle coercitif et à répondre à la violence croissante à laquelle les femmes font face au Canada, où une femme est tuée tous les deux jours, a expliqué le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser. On milite depuis des lustres pour le type de changements qui ont été présentés aujourd'hui, a déclaré une survivante d'une tentative de féminicide, Neka McGregor, présente à ses côtés lors du point de presse mardi. La criminalisation du contrôle coercitif est une demande de longue date de groupes veillant à la protection et à la sécurité des femmes. Il est décrit comme tout ce qui est utilisé pour violenter une personne, l'humilier et maintenir sa domination sur elle. Privation de liberté, chantage émotif, contrôle de l'habillement ou de l'argent, etc. Ces gestes ne sont pas tous en soi des crimes, ce qui limite actuellement les interventions des policiers. La nouvelle infraction donnera aux autorités l'occasion d'intervenir avant que la violence ne devienne fatale, a souligné le ministre Fraser. Mardi, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, qui milite depuis des années pour l'inscription de cette infraction noir sur blanc dans le code criminel, se sentait plus près de la ligne d'arrivée. Et c'est une bonne étape de franchie, a déclaré avec enthousiasme Maître Karine Barrett, chargée de projet au sein du regroupement. Elle s'inquiète toutefois que la création de ce nouveau crime, qui avait rallié les partis d'opposition dans le Parlement précédent, ne soit retardée ou mise en péril en raison de son inclusion dans un projet de loi mammouth, susceptible de faire des mécontents sur d'autres aspects. Et alors que les policiers tentent souvent d'utiliser l'infraction de harcèlement criminel afin d'arrêter un conjoint contrôlant et menaçant, le projet de loi C-16 souhaite faciliter cette façon de procéder en rendant ce crime moins ardu à prouver. Actuellement, le conjoint harcelé doit démontrer que le comportement de l'autre lui fait craindre pour sa sécurité. Si le projet de loi est adopté, il ne sera nécessaire que de démontrer que le comportement aurait fait craindre à une personne raisonnable pour sa vie et sa sécurité, grâce au passage d'un critère subjectif à objectif, il serait plus facile de prouver qu'un crime est commis. Ça va vraiment faire une différence sur le terrain, a commenté Maître Barrett, car tout le fardeau de la preuve ne reposera pas sur les épaules des victimes. Le projet de loi C-16 va aussi faire en sorte que cette infraction inclut les comportements harcelants commis au moyen de technologies modernes, dont les différentes méthodes de surveillance électronique, indique Ottawa. Le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette, veut prendre le temps d'analyser plus en profondeur le projet de loi, mais indique qu'à première vue, il semble répondre à plusieurs demandes du Québec, notamment en ce qui concerne le rétablissement des peines minimales obligatoires et l'inscription du contrôle coercitif dans le code criminel. Québec voit aussi d'un bon œil le durcissement des peines pour violences sexuelles, a-t-il ajouté dans un message au Devoir. Des meurtres au premier degré. On pense souvent à un meurtre prémédité quand il est question de meurtre au premier degré. Mais le code criminel prévoit aussi une série de cas où un homicide est traité comme tel, même sans préméditation. C'est notamment le cas du meurtre d'un policier. Avec son projet C-16, le gouvernement de Mark Carney veut ajouter à cette liste les meurtres de femmes emprisonnées dans une situation de contrôle coercitif, ceux commis dans le cadre d'une agression sexuelle et ceux motivés par la haine des femmes. Merci infiniment, a dit mardi matin la députée libérale et secrétaire d'État Nathalie Provost à son collègue Sean Fraser. Survivante de l'attentat antiféministe de Polytechnique en 1989, elle a déclaré avoir compris dans sa chair ce jour-là ce que signifie être visée simplement parce qu'on est une femme. Pour Maître Barrette, ces ajouts à la liste des meurtres au premier degré sont majeurs. Ils sont une reconnaissance à la fois de l'épidémie de meurtres de femmes et aussi du fait que le féminicide n'est pas un crime commis sous l'impulsion, dit-elle. Les homicides commis par des partenaires intimes ont augmenté de 39 % l'année dernière et 81 % des victimes sont des femmes, a d'ailleurs précisé le ministère de la Justice lors d'un briefage technique destiné aux médias. Le projet de loi C-16 contient une foule d'autres mesures afin de protéger les enfants, notamment contre leur exploitation en ligne. Il entend aussi moderniser les mesures de protection contre les violences sexuelles, dorénavant souvent commises à l'aide de nouvelles technologies. La loi proposée interdirait notamment la diffusion non consensuelle d'hypertrucage, deepfake, sexuellement explicite. C'était « Ottawa dépose son projet de loi faisant du contrôle coercitif une infraction criminelle ». Un texte de Stéphanie Marin, publié le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.
Des droits mal connus en protection de la jeunesse. Un texte de Jessica Nadeau, publié le 16 décembre 2025 dans Le Devoir. Trop de jeunes qui grandissent dans le système de la protection de la jeunesse ne connaissent pas leurs droits. Il en va de même pour un grand nombre d'intervenants qui travaillent avec eux, qui ne savent même pas ce qu'est la commission Laurent, constate le collectif Explacé DPJ qui réclame une formation spécifique et obligatoire sur les droits des jeunes prévus dans les lois. L'accès à l'information est problématique. Les jeunes nous disent toujours qu'ils ne connaissent pas leurs droits, et leurs intervenants non plus. Résume Jessica Côté-Guimont, directrice générale et cofondatrice du collectif Explacé DPJ. L'an dernier, le collectif et Execo ont lancé Droit de cité, un premier livre écrit par et pour les jeunes qui démystifie les droits de ceux qui reçoivent des services de la protection de la jeunesse. Dans une volonté de renforcer la culture des droits, au sein du réseau, les auteurs, qui comprennent plusieurs ex-placés, ont poursuivi leur mission avec une tournée nationale qui les a menés dans une quarantaine d'établissements pour présenter le livre et entamer la discussion avec les jeunes et leurs intervenants. Dans son rapport publié aujourd'hui, le collectif reconnaît d'emblée l'ouverture des milieux visités et la collaboration d'une majorité des professionnels rencontrés, pour qui l'exercice pouvait s'avérer parfois confrontant. Mais Jessica Côté-Guimont note une résistance de la part de certains membres du personnel qui considéraient les ateliers comme une menace plutôt que comme une façon d'outiller les jeunes pour leur permettre de développer leur pouvoir d'agir et de participer aux décisions qui les concernent. Si les chefs de service maîtrisent généralement bien les droits des jeunes et leur utilisation, il y a un défi réel à faire percoler ça dans les équipes sur le terrain, ajoute Émilie de la Liberté, coordonnatrice de la tournée et co-autrice du rapport « La connaissance de ces droits-là par toutes les personnes qui vont rentrer dans la vie de l'enfant, c'est le plus gros besoin que j'ai vu ». Elle trouve d'ailleurs préoccupant de constater qu'une majorité d'intervenants rencontrés pendant la tournée ne connaissaient pas la commission Laurent, Commission sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, ni les changements législatifs qui en ont découlé. Manque de formation. Le collectif recommande une formation obligatoire sur les droits des jeunes pour chaque intervenant, intervenante, œuvrant dans les services de protection de la jeunesse. Il suggère également l'ajout d'un cours obligatoire sur les droits de la jeunesse dans le programme scolaire des étudiants en intervention, en travail social et en droit. Quand la loi n'est pas bien comprise ou mal interprétée, ça amène des lésions de droits et des inégalités, souligne Mme Côté-Guimont. Le document fait état de plusieurs situations rapportées par les jeunes qui témoignent du non-respect de leurs droits ou de leur incompréhension de ceux-ci. Dans certains établissements, il n'y avait pas de comité de résidents et les informations sur le processus de plainte n'étaient pas affichées. Dans certains cas, on aurait carrément empêché les jeunes de porter plainte. D'autres dénoncent l'utilisation des mesures coercitives trop sévères, des installations vétustes et le manque de services. D'un établissement à l'autre, il y avait une grande disparité, note Jessica Guimont, qui précise qu'il ne s'agit pas d'un travail d'enquête, mais bien de rapporter des préoccupations des jeunes en lien avec leurs droits. De façon générale, ce qui interpellait le plus les jeunes dans les présentations, c'était d'apprendre qu'ils avaient le droit de consulter leur dossier, note Madame la Liberté. Je trouve ça très significatif parce que ça a un effet direct sur la capacité du jeune à avoir un pouvoir d'agir sur son histoire. C'était « Des droits mal connus en protection de la jeunesse », un texte de Jessica Nadeau, publié le 16 décembre 2025 dans Le Devoir.